Oui, la dernière fois, on avait parlé de Jésus-Christ et de sa personne et de sa préexistence. Hein, ce que j'ai dit sur l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle en théologie la préexistence. C'est le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu dans le monde. Il est venu une fois comme le sauveur du monde, comme celui qui vient pour nous sauver et donner sa vie pour nous. Mais néanmoins, il était déjà venu à d'autres moments. Ce n'était pas pour donner sa vie. Mais c'était pour comme le messager du Père. Il apportait le message du Père. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est ce que Jean souligne en disant la parole. Il souligne que celui qui était le Messie, qui est le Messie, eh bien, était déjà venu pour apporter la parole du Père, comme il est venu, disons, la première fois. Excusez-moi de dire la chose, mais on dit la première venue, et c'est quand il est venu habiter sur la terre au milieu des hommes, mais il était déjà passé comme cela, et les gens l'avaient vu, il avait parlé aux gens, aux hommes, il leur avait expliqué la parole du Père, mais c'était la parole, c'était le messager. Voilà. Mais le point suivant, eh bien, c'est c'est parler de la liberté de faire un choix. Nous avons la liberté de faire un choix. C'est-à-dire que dans notre monde, beaucoup de religions et dans les philosophies grecques, en particulier le stoïcisme, vous aviez la volonté exclusive de la divinité. Pour les stoïciens, il y avait une volonté déjà préétablie. Tout était déjà prévu, sous contrôle. Rien n'arrivait par hasard. Voilà. Nous ne croyons pas non plus que les choses arrivent par hasard. Mais nous croyons en la liberté. Nous croyons que Dieu a créé des êtres humains libres, capables de faire des choix. C'est-à-dire capable de dire oui ou non à Dieu, de dire oui ou non au plan de Dieu. Et c'est comme cela que nous comprenons les choses. Alors, il est vrai que nous avons de chers frères et sœurs en Christ qui ne croient pas, qui sont pas du tout d'accord sur cette question-là. Ils croient que Dieu a établi de toute éternité un plan qui est immuable. Donc, je vais juste en parler un petit peu pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est bien de donner son point de vue, mais c'est bien de donner aussi l'autre. C'est-à-dire que pour les tenants de la prédestination, Dieu a tout décidé dès le début. Et il contrôle que tout se passe comme il a décidé au début. Et si bien que Calvin dit que même le petit souffle de vent qui souffle maintenant à un endroit donné de la planète est déjà prévu de toute éternité. La branche d'arbre qui tombe, la brindille qui tombe, est prévue de toute éternité. Sur les choses qui nous semblent totalement insignifiantes, eh bien Dieu a un plan établi de toute éternité. À plus forte raison quand il s'agit de l'être humain. C'est-à-dire que les paroles que je prononce, selon les adeptes de la prédestination, les paroles que je prononce maintenant sont prévues de toute éternité. Et je ne dis pas un mot de plus ou de moins. Il y a même l'intonation de ma voix est prévue de toute éternité. Si bien qu'il n'y a rien que l'homme n'innove. Tout est fait et prévu depuis toute éternité. Et aussi bien la chute de Satan que la chute d'Adam et Ève, que toutes les barbaries qui se sont passées sur cette terre depuis des milliers d'années, comme tous les actes de générosité et de bonté, tout a été décidé d'avance de toute éternité, et sans possibilité que les choses changent. Voilà, ça c'est ce que l'on dit pour la prédestination. Et même quant à l'être humain, eh bien, il y a ceux qui sont de toute éternité prévus pour le salut et de toute éternité prévus pour la perdition. Alors, quand on lit certains écrits de cette doctrine, eh bien, parfois, on est bien scandalisé. Et j'ai eu parfois des sueurs froides me disant comment on peut dire de pareilles choses, que Dieu est l'auteur du mal, que Dieu a créé le mal, que Dieu a créé Satan pour qu'il tombe, et que le péché est une création de Dieu. Et toutes les barbaries qui se passent sur cette terre, c'est Dieu qui l'a voulu et c'est dans le plan de Dieu que ça se passe comme cela. Alors si on dit, mais c'était, vous blasphémez Dieu, vous dites des choses sur Dieu qui sont inacceptables. On dit oui, mais ça, c'est votre justice à vous. C'est votre manière de juger à vous. C'est une justice humaine. La justice divine est totalement différente. Vous ne pouvez pas la comprendre. C'est autre chose. Donc, c'est votre notion de justice est une notion de justice humaine. Elle a ses a priori, ses rejets, elle est charnelle, c'est-à-dire. Et la justice spirituelle et divine, alors, elle est tout à fait autre chose. Mais je peux vous dire que nous ne croyons pas une seule parole de tout cela. Hein. C'est l'homme est responsable à 100% de ses choix et de ce qu'il fait. Et quand Dieu condamne un être humain, il le condamne selon ses choix humains. L'homme a fait ses choix et il est jugé et condamné par la justice de Dieu parce que il a mérité exactement le châtiment qui est prévu pour la transgression de la loi. Et pour parler de cette fameuse justice charnelle, contrairement à la justice spirituelle, c'est-à-dire que quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a donné une loi qui est compréhensible et à mettre en pratique par des êtres humains. C'est-à-dire quand il a dit tu ne tueras pas, ce n'est pas une loi sublime qui dépasse dans tout l'univers, et celui qui est meurtrier, eh bien, est puni par la loi humaine et divine. Celui qui a volé est puni par la loi humaine et divine. C'est-à-dire qu'il y a une relation très étroite entre la justice humaine et la justice divine. Et même c'est Paul va très loin et il dit que nous avons un tribunal de notre conscience. Et c'est-à-dire qu'il dit que ceux qui sont sans loi sont jugés sans la loi. Mais ceux qui sont sous la loi sont jugés par la loi. Mais ceux qui sont sans loi ne sont pas jugés sans une loi quand même. Ils sont jugés par la loi de leur conscience. Parce que Dieu a mis une loi dans le cœur de l'être humain. Et c'est-à-dire que universellement, à moins vraiment qu'il y ait une contradiction et que les gens aillent dans le sens hors du sens commun, eh bien, le vol, le crime, l'adultère sont toujours punis par la loi. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, à notre époque de décadence, eh bien, ces choses-là sont regardées comme pas si graves et bon, ça arrive, hein. Mais si vous prenez les codes. Par exemple, beaucoup de gens ont parlé du code d'Hammurabi. Ah, ce fameux code d'Hammurabi qui est quelques siècles avant la loi de Moïse et qui va dans le même sens que la loi de Moïse. Ah, on vous dit, ah, mais Moïse a copié le code d'Hammurabi, évidemment. Mais non. C'est-à-dire que Dieu a mis un code de loi dans la conscience de l'être humain. Et cet être humain, Hammurabi, qui était sans doute un homme très intelligent et très expert, il n'était pas seulement un roi, mais il était un bon légiste, eh bien, il a transcrit ses lois qui étaient dans sa conscience. Et quand Dieu a donné la loi de Moïse, il n'a pas donné quelque chose qui est hors de la conscience humaine. Il n'a pas donné quelque chose d'extérieur. La seule chose, c'est que Dieu a fait mettre par Moïse, par écrit. Parce que la loi de la conscience, c'est très bien, mais on peut fausser notre conscience. Et on juge, ne juge pas. Aucun juge au monde juge sur des sentiments, sur des émotions, sur des pensées, sur des états d'âme, sur la conscience. Il juge selon un code de loi écrit, promulgué, accrédité et accepté par une société. Et c'est cette société-là qui juge, au travers du juge, qui juge un coupable. C'est cela la loi. Mais jamais une loi humaine ne juge des sentiments ou des pensées. Il n'y a que Dieu qui peut juger dans ce domaine-là. L'être humain qui est juge, juge des faits. Voilà. Et quelque chose a été commis. Il y a eu un vol. Il y a eu un adultère. On juge un fait. Et c'est Dieu a donné donc la loi de Moïse pour que les gens puissent être au courant de la loi. Mais il y avait donc ce fameux code d'Hammurabi qui est daté, mais il ne fait que confirmer que l'être humain sait où est le bien et il sait où est le mal. Et si un homme comme Hammurabi a fait un code de loi, c'est que l'homme était capable de transgresser certaines règles ou de ne pas les transgresser. C'est un libre choix. C'est une capacité à dire oui ou à dire non. Et Dieu, quand il a donné sa loi, eh bien, il a donné une barrière qui permettait à l'homme de se situer dans la loi ou hors de la loi. Quand Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien dans le jardin d'Éden, eh bien, à ce moment-là, il a donné à l'homme la possibilité de dire oui ou non à un ordre bien défini de Dieu. Dieu avait dit à l'homme qu'il ne devait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Et le jour où l'homme a mangé, eh bien, il est mort, spirituellement. C'est la mort physique, même si elle a tardé à venir, eh bien, elle est arrivée quand même un jour. Mais la mort spirituelle est arrivée instantanément. C'est-à-dire que l'homme a été coupé de la communion avec Dieu instantanément, parce qu'il a fait un choix. Il a usé de son choix. Il aurait pu user de son choix pour le bien, il a usé de son choix pour le mal. Alors nous connaissons comment l'homme a usé de son choix pour le mal. Et nous pouvons soupçonner et supposer ce que cela aurait été si l'homme avait choisi pour le bien. Si par exemple il avait dit, eh bien non, Dieu a dit que je ne vais pas manger du fruit, il n'y a aucun argument qui va me convaincre que je dois en manger. Dieu a dit non, c'est non. S'il avait dit une phrase de ce genre, eh bien, ça aurait été terminé. Satan aurait été chassé du jardin d'Éden et l'homme aurait franchi un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'il aurait été du côté du bien. Tandis qu'au moment où il a fait le mauvais choix, il n'était ni d'un côté ni de l'autre. Il était innocent. Donc ça, c'est très important de savoir qu'il y a un libre arbitre et que l'homme est capable de dire oui ou de dire non à la loi de Dieu et au plan de Dieu. Ceux qui parlent, disons, qui disent que l'homme n'a pas le choix et que Dieu a tout déjà prédestiné, eh bien, se trouvent bien embarrassés avec certains passages de la Bible. Où Dieu dit, par exemple, choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Si c'est déjà choisi, comment est-ce qu'on va choisir quelque chose qui est déjà choisi? Par exemple, un verset que j'aime beaucoup, qui est très très court, hein? Priez sans cesse. Ah, c'est un commandement. S'il n'y a pas de libre arbitre, si l'homme, pourquoi Dieu dit-il une phrase comme cela? C'est quelque chose. Si Dieu propose le moyen d'être sauvé, mais l'homme l'accepte ou le refuse. Vous avez bien des passages qui vous parlent que des hommes ont choisi librement de faire ce qu'ils ont fait. C'est très très caractéristique de voir comment Dieu donne à l'être humain des occasions de revenir sur sa décision. Vous voyez le nombre de fois où, disons, dans la semaine de la Passion, quand Satan avait déjà inspiré à Judas le désir de vendre le Seigneur Jésus-Christ, de le trahir, eh bien, vous verrez le nombre de fois où le Seigneur Jésus dit une parole qui donnerait à Judas l'occasion de ne pas faire ce qu'il avait l'intention de faire. Mais il l'a fait. Et nous disons, mais ben voilà, c'est pas, il l'a fait parce que c'était prédestiné. Oui, mais le Seigneur Jésus lui a donné des occasions. Et vous verrez le nombre de passages où il est dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. Il y a beaucoup de quiconque dans la Bible, hein, et dans le Nouveau Testament en particulier. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque, là, c'est n'importe qui, mais qui veut. C'est pas un choix prédestiné. C'est-à-dire que l'homme a une liberté de choisir. Je reviens à la loi. Quand on nous dit, ben, l'homme est incapable de suivre la loi. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais c'est faux aussi. C'est vrai parce que Dieu ne donne pas une loi que l'on ne puisse pas suivre. Dieu n'est pas un tyran ni un despote pour créer des lois qui sont arbitraires et l'homme, eh ben, je ne peux pas le faire. L'homme peut faire la loi, accomplir la loi, mais l'homme n'est pas sauvé par la loi. L'homme est gardé par la loi. La loi était là pour garder l'être humain, mais elle ne nous sauvait pas, elle ne nous justifiait pas. Ce qui nous justifie, ce qui justifiait les croyants de l'Ancien Testament, eh bien, c'était la foi dans le sacrifice. Ça, c'était, et qui était une image du sacrifice de Jésus-Christ. Mais la loi était là pour être suivie. Et Dieu tient l'homme pour responsable de ses choix et de comment il suit la loi ou il transgresse la loi. Et vous verrez, quand vous lisez le livre des rois, vous verrez tous les rois d'Israël et de Juda. Et comment ils ont suivi la loi et comment ils l'ont transgressée. Et ils l'ont plus souvent transgressée que suivie. Et comment Dieu a jugé les actions de ces personnes à cause de leurs mauvais choix. Quand le peuple d'Israël est allé déporté en Babylone, eh bien, Dieu a bien dit que c'était à cause des péchés de Manassé. C'est le roi Manassé. Parce qu'il s'est livré au péché plus qu'aucun des rois avant lui. Mais il s'est converti. Il est revenu de sa mauvaise voie et il s'est humilié devant Dieu et il a vraiment reconnu ses torts devant Dieu et ce que l'on appelle, c'est la conversion de Manassé, du roi Manassé. Mais néanmoins, il a entraîné le peuple dans le péché et dans la désobéissance et il y avait un jugement qui était sur le peuple à cause des péchés de ce roi. Même s'il a demandé pardon, c'était quand même un jugement qui était sur le peuple. Donc, il y a des jugements qui sont liés à des personnes et à des situations parce qu'il y a eu du péché. Si l'homme n'est pas, comment dire, pas capable de suivre la loi, alors pourquoi Dieu juge-t-il? Si, par exemple, vous brûlez un feu rouge et qu'un agent de la circulation vous verbalise, hein, pour ne pas dire autre chose, vous êtes condamné à payer une amende et même avoir peut-être davantage, hein, plus grave qu'une amende. Mais parce que c'est quand même une grave transgression, c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez dire je l'ai pas vu, mais enfin, on vous tient pour responsable. À partir du moment où vous vous asseyez derrière un volant d'une voiture et que vous mettez le contact et que vous faites avancer cette voiture, vous devez remplir certaines conditions. Et il y a une loi qui est derrière. Et celui qui ne remplit pas les conditions ne doit même pas tourner la clé du contact et faire avancer la voiture. Si, par exemple, il n'y a pas d'assurance et il n'y a pas de permis de conduire, c'est même pas la peine. C'est contre la loi. Mais la loi, celui qui a le légiste, qui a prévu la loi, eh bien, a prévu que les êtres humains étaient capables de suivre la loi. On n'a pas créé des lois pour des gens qui sont incapables de la suivre. Ceux qui sont incapables de suivre la loi, eh bien, ils ne peuvent pas, par exemple, reprenons le cas de la conduite, eh bien, ils ne peuvent pas définitivement conduire une voiture. Il y a des personnes qui sont infirmes, qui sont handicapées. Par exemple, un aveugle, eh bien, ne conduira pas une voiture. Bah oui, c'est prévu par la loi. Il a fallu que quelqu'un dise, les aveugles ne peuvent pas conduire une voiture. Parce qu'il y a encore des malins qui auraient dit, oui, mais la loi ne le dit pas. Mais à partir du moment où la loi est là pour qu'on la suive, et ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de nos possibilités. Et la loi divine, c'est la même chose. Si Dieu a dit quelque chose, c'est que nous avions la capacité de l'accomplir. Donc, c'est le problème de beaucoup de gens qui disent, et c'est les tenants donc de la prédestination, disent que l'homme est absolument incapable de suivre la loi. Mais de toute façon, ce n'est même pas la peine d'en parler, puisqu'ils pensent que on est prédestiné à être perdu ou à être sauvé. Donc, suivre la loi ou pas suivre la loi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a un plan prévu de toute éternité. Tandis que Dieu a donné une loi que nous sommes capables de suivre, qui n'est pas hors de notre portée. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a donné sa vie, et il a donné une nouvelle capacité à l'homme. Il a donné une nouvelle nature, possibilité d'une nouvelle nature. Quand nous naissons de nouveau, nous avons une nouvelle nature. Notre ancienne nature pouvait suivre la loi de Moïse dans une certaine mesure. Mais en Christ, Dieu est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire que le Saint Jésus a dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire que à partir du moment où le Seigneur Jésus est venu, dans la loi, il rentre une nuance de sentiments et de pensées. Et on est jugé sur des sentiments et des pensées que la loi de Moïse ne pouvait pas. Parce que la loi de Moïse est donnée par un homme et elle est appliquée par des hommes. Et c'est celui qui transgresse la loi est jugé par des hommes. Tandis que avec une nouvelle nature et dans la nouvelle condition qui est créée en Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu qui est juge. Et donc, il est obligatoire que ce soit tout à fait autre chose. Ce n'est plus un homme qui va juger, mais c'est Dieu. Et lui sonde le cœur et les pensées. Il connaît les sentiments. Il connaît nos pensées. Il connaît nos mobiles profonds. Et il n'y a pas d'injustice possible avec Dieu. Lui, il sait exactement qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. Donc, si vous avez des doutes sur cette question, eh bien, vous verrez le nombre de passages dans la Bible où Dieu donne des commandements. C'est où Dieu tient l'homme pour responsable de suivre et de faire ce qu'il dit. Vous lisez, il y a un nombre incroyable de versets à l'impératif dans la Bible. Et les versets à l'impératif, eh bien, sont des versets qui sont là pour nous montrer que l'homme est responsable de ses choix. Dieu donne un commandement. C'est, comme je vous ai dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Vous en avez d'autres, hein. C'est beaucoup de passages comme cela. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons bien faire attention à notre vie. Nous ne sommes pas des machines qui sont programmées pour faire certaines choses, mais nous sommes nés de nouveau et responsables de nos choix. Et Dieu nous tient pour responsables. Ce que nous faisons a des conséquences à court terme et à long terme, dans le présent, dans l'avenir, mais aussi dans l'éternité. Et nous sommes responsables de nos choix. C'est pas que nous allons nous présenter devant Dieu et dire, eh ben voilà, je t'ai programmé pour ne pas être un bon chrétien. Eh ben, je vivais à une époque où on était tous mauvais chrétiens et j'étais programmé pour cela. Mais je peux vous dire une chose, si vous enlevez le libre arbitre de l'homme, vous n'avez plus besoin de prier. Parce que la prière elle-même attend un exaucement. Si l'exaucement est prévu de toute éternité, je vais vous dire à quoi ça sert bien de prier. Et oui, c'est logique, hein? Et j'ai remarqué que les mouvements dans lesquels il y a cette pensée de que l'homme est prédestiné de toute éternité, il n'y a pas beaucoup de réunions de prière. La prière n'est pas quelque chose de très, très regardé. Je me rappelle avoir prié avec quelqu'un qui était calviniste, mais il a bafouillé deux ou trois petites phrases et puis c'est tout, hein. Il n'y avait pas vraiment un désir de prier, d'obtenir quelque chose dans la prière. C'est tout simplement l'homme qui attend que Dieu fasse les choses. Voilà, on attend. Et il y a bien des personnes qui attendent, qui ont attendu et qui attendront encore la volonté de Dieu, si Dieu veut. Voilà. Et ça passe pour quelque chose de très pieux, mais ce n'est pas la foi. Mais même, je dis la foi, mais où est la foi s'il n'y a pas, l'homme n'est pas responsable? On en parlera peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais pour l'instant, on va s'arrêter.